Alors que la question de l'immigration est aujourd'hui majoritairement traitée sous l'angle de l'arrivée de réfugiés en Europe, le réalisateur Gaël Morel propose dans son nouveau long-métrage « Prendre le large », qui sort en salle mercredi prochain, de raconter une immigration à l'envers, celle d'Edith, une ouvrière de 45 ans confrontée à la délocalisation au Maroc de son atelier textile, où elle va accepter, contre toute évidence, d'aller travailler. C'est l'actrice et réalisatrice Sandrine Bonner qui interprète cette femme, porté par un attachement à la valeur du travail, on va le voir, qui va à travers cette traversée de la Méditerranée briser sa solitude, retrouver sa liberté et retrouver peut-être aussi un but à son existence. Bonjour Sandrine Bonner.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors le film s'ouvre sur une usine en plein mouvement social. Votre personnage, Edith, 45 ans, veuve, y travaille sur une ligne de production de textile. Et alors que le site est sur le point d'être fermé, et donc la plupart des travailleurs, des travailleuses licenciées, eh bien la travailleuse que vous incarnez décide d'accepter de suivre la procédure de reclassement comme la loi l'impose. Petit extrait.
Edith Clerval ?
Oui.
Je vous en prie. Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société.
Je suis licenciée ?
Effectivement. Mettre un terme au contrat de travail se solde par un licenciement habituellement, et c'est la solution la plus classique. Mais il y en a d'autres. Comme notre groupe se délocalise, vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc. Je me dois de vous informer de cette possibilité, mais ce n'est pas la solution la plus avantageuse pour vous.
Au Maroc ?
Oui. Les coûts de production sont beaucoup plus bas.
Et je peux y aller comme ça ?
Comment comme ça ?
Ben, je veux dire... Je peux y aller, moi, comme ça, sans... Il n'y a rien à faire.
Enfin, il vous faut un passeport, un cours de validité, bien entendu, et le contrat de travail. Mais ce n'est plus de mon domaine, après.
J'aimerais beaucoup.
Vous seriez intéressée ?
Oui.
Et oui, elle est intéressée, Edith. Elle choisit de partir parce qu'elle préfère travailler. Et aussi peut-être parce que, finalement, elle n'a pas grand-chose à perdre. Son fils est devenu grand, Sandrine Bonner. Il est parti vivre à Paris, où il s'est paxé avec un garçon, mais il ne donne pas beaucoup de nouvelles. Lorsqu'elle explique qu'elle va partir au Maroc, tout le monde la traite de folle. Son fils ? Une camarade syndiquée, est-ce que vous avez eu l'impression de jouer une folle ou est-ce qu'au contraire, il vous semblait qu'il y avait quelque chose d'éminemment rationnel dans ce choix, Sandrine Bonner ?
J'ai le sentiment d'avoir interprété quelqu'un de très digne. Très très digne, c'est une femme qui ne veut pas dépendre du système, des indemnités qu'elle pourrait recevoir en France, de ne pas être assistée. Et de continuer à trouver un sens à sa vie. Donc ça passe effectivement par le travail, mais comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, hein, si on est conditionné pour, et on est éduqué déjà, dès la petite enfance, au monde du travail, dans le sens où les enfants vont à l'école pour avoir un travail plus tard. Il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon travail. Donc Edith, elle travaille depuis très longtemps. Et elle a envie de continuer à se sentir utile.
Envie de continuer à se sentir utile. C'est aussi une femme, on le sent très bien, qui croit profondément à ce qu'on appelle justement la valeur travail. C'est-à-dire cette idée selon laquelle l'emploi permet justement d'être digne, d'être fier. L'emploi permet de conserver aussi une certaine liberté, de faire du lien social. C'est évidemment quelque chose qui, on l'imagine, a résonné de façon particulière chez vous. Vous êtes de ce milieu ouvrier. Votre père était ouvrier, ajusteur. Il vous a inculqué, il vous a transmis ses valeurs ouvrières. Est-ce que c'était aussi à travers ce film, une manière de rendre hommage à ce milieu ouvrier ?
Oui, aussi. Alors, je n'ai pas accepté le film pour ces raisons-là. Enfin, je n'ai pas pensé à ça directement. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent à l'usine, pour qui la vie est quand même pas facile, de se lever tôt, d'être dans un travail, entre guillemets, à la chaîne... c'est compliqué, faut être courageux et mentalement et physiquement, donc ce sont des valeurs auxquelles je suis attachée, et c'est vrai que je viens d'un milieu, le personnage d'Edith, c'est complètement mon père, par exemple. Et je trouve que Gaël l'exprime assez bien dans son film, parce qu'il vient de là aussi. Et le regard,
Gaël Morel,
tout à fait. Et son regard est complètement, c'est pas un réalisateur snob ou bobo qui va parler du milieu ouvrier.
Il le connaît.
Il le connaît bien.
On va parler tout à l'heure évidemment de Gaël Morel, mais c'est vrai qu'en général, quand on nous présente le monde ouvrier d'aujourd'hui, on le présente en lutte contre le patronat, on le présente en lutte contre les inégalités produites par ce qu'on appelle communément le néolibéralisme. Là, Edith n'est pas exactement dans cette forme de lutte. D'ailleurs, elle rejette assez fortement les syndicats. C'est une autre lutte, peut-être une lutte pour elle-même, plus individuelle, non ?
Oui, tout à fait. Plus rien ne l'attend en France, donc elle prend ce risque et c'est une jolie audace de partir et de rien connaître à la vie au-delà de son travail et d'avoir été mariée. Mais c'est une femme qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais vécu grand-chose, qui vit seule, qui a un fils, mais elle est totalement esseulée par rapport à tout ça. C'est cette belle audace de se dire, de toute façon, ici je n'ai rien, plus rien ne m'attend. Je vais prendre le risque d'aller ailleurs, même si pour un salaire misérable, mais c'est pas grave, j'y vais.
Elle n'est pas tellement effectivement concernée par la question de la lutte ouvrière, de la lutte des classes. Je ne crois plus à tes discours, l'union fait la force et toutes ces conneries de syndicalistes. Voilà ce que dit Edith à une de ses camarades syndiqués. Vous êtes concernée, vous, par ces choses-là? La France, on le sait, est particulièrement en crise dans le domaine de l'industrie. On voit ces territoires qui se désindustrialisent progressivement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous atteint, qui vous rend, je ne sais pas, peut-être nostalgique? C'est aussi un monde qui disparaît?
Effectivement, c'est un monde qui disparaît. On se rend compte que la société va de plus en plus mal et les gens sont de plus en plus stressés, de plus en plus inconfortables. Avant, il y avait des vraies divisions. Il y avait vraiment justement la classe ouvrière. Il y avait les bourgeois. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui est dans quoi. Les frontières sont de plus en plus resserrées. Je pense que c'est de plus en plus dur d'avoir une vie confortable. La vie est de plus en plus chère. Il y a de moins en moins de travail. Oui, je me sens concernée. En même temps, je suis une vraie privilégiée. Mais je me sens concernée quand même. Et puis, j'ai surtout une famille qui est concernée. J'ai une famille qui est restée comme elle est. C'est-à-dire, on vient d'une famille de classe ouvrière et moi, j'en suis sortie, mais pas eux. Donc je suis confrontée, régulièrement à ce monde-là. Et puis il suffit d'observer autour de soi.
Mais vous êtes concerné évidemment à titre privé parce que c'est aussi votre histoire. Est-ce que vous avez le sentiment que le cinéma français est particulièrement concerné? Nos voisins britanniques sont assez remarquables dans le genre du cinéma social. Des gens comme Ken Loach, comme Stephen Frears, comme Danny Boyle, comme Alan Clarke, des réalisateurs qui ont mis à l'écran ces populations désœuvrées, paupérisées, cette classe ouvrière qui a subi de plein fouet justement cette désindustrialisation dont on parle, en particulier avec les années Thatcher. Gaël Morel y justifie entre autres le choix de ce sujet de film par le fait qu'il y a assez peu de personnes qui travaillent dans le cinéma qui viennent justement de ce milieu ouvrier. Vous avez le sentiment qu'en France, le cinéma défend suffisamment bien la cause ouvrière, la classe des plus défavorisés, Sandrine Benner?
Alors, j'ai pas du tout d'avis là-dessus. Ouais. Il y a de bons films, j'imagine, qui se sont faits, des très mauvais aussi. Je pense que c'est un sujet assez sensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un sujet pareil si on... J'ai presque envie de dire si on vient pas de là, c'est peut-être réducteur, mais c'est pour ça que je salue vraiment le talent de Gaël Morel. Il a su raconter ce sujet-là, parce qu'il vient de là, et c'est bête, mais je pense que... C'est compliqué de parler de choses pareilles si on n'a pas un peu de maturité par rapport à ça.
Et puis en plus, il l'a abordé de façon très habile, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il a abordé les choses un peu à l'envers, à contre-courant. Quand Edith débarque au Maroc, tout le monde évidemment est étonné par ce choix. C'est le monde à l'envers, vous dit la femme qui l'accueille dans une pension assez modeste. En général, les Français viennent là pour profiter, pour le tourisme. C'est les Marocains qui vont chercher à partir pour aller travailler. Est-ce que c'est précisément précisément parce qu'il y avait une histoire, disons, peut-être différente, singulière, que vous avez accepté justement de jouer ce rôle. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Sandrine Bonnaire?
Qu'est-ce qui m'a convaincu? Ben, l'histoire, le rôle. Ouais. Le rôle, Gaël Morel aussi, parce que j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup l'homme. C'est tout ça qui a fait que j'ai accepté de jouer ce rôle. Et puis, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait, dans le sens où ce personnage m'a permis d'être... Il y a une mise à nu. Une mise à nu dans le sens... Il y a des rôles comme ça qui permettent de ne pas tricher, d'être totalement dans... J'ai envie de dire, oui, dans les vraies valeurs humaines. On ne peut pas faire l'actrice, si je puis dire, quand on joue une ouvrière. C'est pas possible. On peut pas tricher. Je peux pas mettre une blouse d'ouvrière en ayant des caprices d'actrice, par exemple. Vous voyez, je schématise. Mmh. Je suis pas du tout de ce genre-là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un travail de comédien. C'est plus. Des choses, et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que les choses sont essentielles, ce qui est raconté est essentiel, presque primaire. Cette femme est primaire, elle est toute simple, elle est innocente d'une certaine manière.
Oui, il y a une certaine naïveté chez ce personnage.
Voilà, il y a une naïveté, il y a une pureté, elle demande pas grand-chose, elle demande à continuer à travailler. Ça peut paraître idiot, mais... et à travers ça, et c'est ce qui est raconté. Et je trouve que aussi l'aspect de l'immigration est intéressant. Effectivement, on se rend compte que parce que ça parle d'intégration, comment s'intégrer quelque part. Et c'est l'intégration d'une blanche. Voilà, c'est un autre point de vue de l'immigration.
Elle s'intègre d'ailleurs. Plutôt bien. Alors, il y a évidemment quelques difficultés. Il y a, par exemple, quand elle arrive dans ce car et qu'elle est la seule à ne pas être voilée, on lui fait comprendre assez rapidement qu'il va falloir qu'elle se voile. Alors, elle va se voiler. Il y a presque une forme de soumission, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il y a une volonté très claire d'accepter tout ce qui ne vient pas de sa propre culture et de s'intégrer. Et d'ailleurs, quitte à prendre un peu sur soi et quitte à perdre un petit peu de sa propre liberté.
Absolument. Elle est prête à se fondre dans les codes du pays. Mais c'est le regard des autres qui est compliqué. Mais comme chez nous, l'intégration n'est pas facile. On a des jugements qui se font par une couleur de peau, et c'est ce qui se passe pour elle là-bas. C'est compliqué d'être intégré quelque part. Pas tant par soi-même, mais par le jugement qu'on fait de vous. Et il est évident qu'elle est suspicieuse, dans le sens où qu'est-ce qu'elle vient faire là-bas? On ne comprend pas. Elle pourrait rester en France pour un salaire bien plus important. Donc pourquoi va-t-elle là-bas? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle vient nous prendre, ouais, notre boulot à nous, elle vient manger notre pain, comme on dirait. Ouais. J'ai tellement entendu ça.
Ce qu'elle veut, c'est sa liberté, et puis c'est aussi briser la solitude.
Oui, c'est aussi ça, briser sa solitude.
Ouais. C'était la première fois que vous tourniez avec Gaël Morel. Alors, on l'a découvert d'abord en acteur dans Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, et puis il a eu un parcours en tant que scénariste et réalisateur en 96 À toute vitesse, 2002 Les Chemins de l'Oued, 2004 Le Clan, 2007 Après lui, et puis Notre Paradis en 2011 avec notamment Béatrice Dalle. Il vous vouait, dit-il, une certaine admiration depuis longtemps. Il paraît qu'il avait gardé de son adolescence une petite enveloppe dans laquelle il y avait quelques coupures de presse vous concernant. Il y avait aussi un vieux numéro du magazine Première de 86 sur lequel vous faisiez la couverture. Quel genre de réalisateur est-il et quel lien est-ce que vous avez établi tous les deux?
Déjà, j'étais très flattée qu'il écrive pour moi. C'est toujours intimidant, quelqu'un qui pense à vous dès l'écriture. C'est intimidant parce que vous suscitez un rêve, un fantasme auquel vous savez pas si vous pourrez y répondre ou pas. Quoi.
Qu'est-ce que ça change pour vous, concrètement, qu'il ait justement écrit ce rôle sur mesure? Il l'a cousu pour vous, quasiment. qu'est-ce que ça change ?
Oui, on peut dire ça. Il a cousu pour moi, c'est joli. C'est intimidant parce que on ne sait pas si on va être à la hauteur des attentes. Et puis en même temps, faut pas penser à ça parce que sinon on fait plus rien. Enfin, ça le c'est très flatteur, c'est mais l'aventure était jolie dans le sens où c'est un désir tout simple aussi et c'est un metteur en scène très simple dans le sens où c'est pas quelqu'un qui m'a dirigé en analysant les choses
en les
intellectualisant. Oui, il laisse à la fois beaucoup de liberté et puis en même temps il est très précis dans sa manière de voir les choses, dans la construction des images, dans... Ça m'a renvoyé à un cinéma que j'aime et deux grands metteurs en scène. C'est quelqu'un qui...
Ça vous est pensé à quel metteur en scène ?
Il m'a fait penser à plein de metteurs en scène dans le sens... j'ai envie de dire à cette première décennie que j'ai eue. Et voilà, il y a quelques metteurs en scène comme ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec un film d'un metteur en scène tchadien. Mahamat Saleh Haroun, et pareil, ça m'a renvoyé à cette première décennie que j'ai eue, dans le sens où il y a des choix de mise en scène, il y a des choix de plan, il y a des choix de direction d'acteurs qui sont simples, mais pensés, et des prises de risques dans le sens où on n'est pas là pour créer une image, ou des images, mais on est là pour créer une scène. Mmh. Et voilà, et avec Gaël, on se sent, responsable de ce qu'on fait par rapport à... voilà, il y avait, c'est idiot, mais il y avait des plans séquences, des vraies responsabilités. On va pas faire une scène, c'est-à-dire on va pas découper la scène, on va pas la décortiquer en 15 plans, on va dire deux mots et puis tac, on coupe, on va reprendre de l'autre côté, nanana. Je me suis pas sentie coupée dans mes élans d'actrice. Voilà.
C'est un réalisateur qui est relativement jeune, peut-être un peu plus jeune que ce que vous aviez eu l'occasion de croiser, Piala, Doyon, Rivette, Téchiné, Chabrol, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Est-ce que justement, il se démarquait de ces metteurs en scène que j'ai cités ? Peut-être aussi parce qu'il est plus jeune ?
Mais à la fois, il se démarque parce qu'il s'appelle Gaël Morel et pas Jacques Doyon.
Bien sûr.
Téchiné ou je ne sais qui. Et en même temps, il est dans cette veine-là justement, de cette maturité de gens qu'on vient de citer. Il a... mais il connaît bien le cinéma en tant que spectateur et en tant que... Voilà, il a grandi avec, il a rêvé d'en faire très jeune, et il a analysé ce métier, mais sans l'intellectualiser dans le sens, sans le rendre mortifère. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça vous plaît. Régulièrement, vous dites que vous aimez pas trop intellectualiser les choses, il vous faut du concret. J'ai vu ça dans plusieurs de vos interviews.
Oui, ouais. En tout cas, dès qu'on est sur un plateau, il faut que ce soit concret.
Justement, il y a une chose qui est très concrète, qui visiblement était très importante pour Gaël Morel, c'est la question des costumes, des vêtements portés par Edith. Il paraît que vous en avez beaucoup discuté entre vous.
Oui, on ne voulait pas une...
Pourquoi c'était important ?
Ben parce que c'est ce qui rend crédible un personnage. Enfin, ça, une allure est déjà, c'est déjà la première chose pour un personnage et pour une actrice. C'est un outil de travail, si je puis dire, un costume.
Ouais. Gaël Morel expliquait que quand il tourne un film, il pense toujours à un autre film. C'était Rocco et ses frères de Visconti quand il tournait Le Clan, puis Rob 51 de Rossellini pour Après lui, et puis pour prendre le large, il disait qu'il a beaucoup pensé à Stromboli de Rossellini. Vous avez, vous, pensé à un film en particulier, à une actrice dans un film en particulier pour jouer ce rôle d'Edith ?
Non. Je n'ai pensé qu'à moi. Je suis bien trop égoïste.
Il n'y a rien qui vous a... conduit d'une certaine manière à travers ce tournage.
Non, je ne suis pas dans des références. J'y pense pas. Je suis dans le faire. Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, Sandrine Bonner, vous avez raison. On va poursuivre évidemment notre échange en deuxième partie tout à l'heure vers 8h20. On continuera de parler probablement un peu de ce film et puis peut-être d'autres aussi. Sandrine Bonner, merci beaucoup d'être avec nous ce matin.